Docteur en anthropologie sociale et en ethnologie. Il est actuellement docteur postdoctoral à l'Université de Bordeaux au sein du laboratoire de recherche Culture et diffusion des savoirs. Dans le cadre d'un projet sur la précarité alimentaire en France, il mène une recherche-action qui vise à comparer des dispositifs innovants d'accès à l'alimentation, et tout particulièrement dans le contexte des expérimentations de caisses communes de l'alimentation en Gironde et à Montpellier. Ses recherches portent particulièrement sur les trajectoires d'évolution sociale au sein de ces contextes spécifiques que sont les expérimentations s'inspirant du projet de sécurité sociale de l'alimentation. Entre autres, David Glory est co-président de l'association Aclimat Action, qui porte juridiquement et administrativement la caisse commune de l'alimentation en Gironde. Voilà, j'espère que j'ai bien traduit votre parcours. Et je vais vous laisser la parole, mais je présente quand même, je connais les noms, il y a Janine, Mireille et Laure. Laure, qui sont là aussi et qui vont nous parler en tant que témoins après de leur expérience. À toi, Belle.
Ok.
Tu n'as pas besoin de venir à la table.
Non, je pense que je.
On n'est pas
mis. Non, je ne sais pas le faire.
C'est pas plus long de moi, je pense, sur celui-ci.
C'est bon.
Super. Vous m'entendez ? Super. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. C'est très impressionnant de voir une grande salle comme ça avec beaucoup de gens qui nous regardent. Donc déjà, je voulais vous remercier pour l'invitation. Ça n'a pas été facile de venir, mais on a réussi. J'espère qu'on va pouvoir réussir à repartir. Pas parce que je n'ai pas envie de vous voir, mais parce que j'ai autre chose derrière qui m'attend. Donc la mission qui m'a été confiée là, pendant une petite vingtaine de minutes, c'est d'essayer, donc vous avez vu ce film qui pose des choses assez fortes et qui a le mérite d'être clair sur la situation actuelle de l'alimentation. L'idée, c'est que je revienne un peu sur comment ces caisses de l'alimentation ont émergé, quel est l'imaginaire qui est derrière, qu'est-ce qu'on projette dans la réalisation actuellement d'expérimentations de caisses. Et ensuite, je laisserai la parole du coup à nos participants sur leur expérience de caisse au quotidien, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qu'elle vit concrètement sur ces caisses. Donc d'abord, je ne vais pas insister longtemps sur le contexte, vous l'avez vu, on a à la fois une précarité alimentaire qui est de plus en plus grandissante en France. Je ne vais pas vous assommer de chiffres non plus, mais on a par exemple dans une étude de 2023 qui dit que 16% de la population en France n'a pas assez à manger, déclare ne pas avoir assez à manger depuis en 2023. Et c'est un chiffre qui a doublé dans les 5 dernières années. Donc on a cette précarité alimentaire qui est grandissante, et de l'autre on a la précarité du côté de la production qui elle aussi est grandissante. Pour vous donner là aussi un petit chiffre, parce que j'ai bien fait mon travail et j'ai trouvé des petits chiffres intéressants. En 2019, il y avait plus de 26 000 adhérents à la MSA qui étaient au RSA, par exemple. Donc ce sont des producteurs qui travaillent tous les jours, qui se lèvent tous les jours pour produire, et c'est des gens qui se retrouvent au RSA. Et le dernier chiffre qui a été mentionné et qui est absolument énorme, c'est le coût que ça représente pour les consommateurs que nous sommes tous et toutes. C'est-à-dire qu'un produit alimentaire, vous l'achetez deux fois en réalité. Vous l'achetez une fois au magasin et vous l'achetez une deuxième fois par les impôts que vous payez. Et ça, potentiellement, quand on calcule ce coût, cette entièreté du coût, on se retrouve avec des montants qui sont bien supérieurs au prix d'achat d'un produit alimentaire. Ce constat-là, c'est des dizaines de structures qui sont des syndicats agricoles, qui sont des structures de l'aide alimentaire type Secours Populaire, ce sont des associations d'éducation populaire qui en fait petit à petit ont fait le constat de ces impasses, et elles ont fait le constat aussi de leur propre impasse à proposer des alternatives, des petites expérimentations par-ci, par-là, pour essayer de changer les choses à leur mesure, sans pouvoir véritablement en fait traiter le problème, qui en fait est un problème systémique. Tout ça a amené à ce qu'on est dans un équilibre où en fait on a un marché économique de l'alimentation qui crée de la précarité à différents niveaux, et on a en parallèle des dispositifs qui viennent le mieux possible, le plus possible, combler les externalités négatives. C'est-à-dire qu'on a une précarité alimentaire en France, on a un système de l'aide alimentaire qui permet aux gens de ne pas mourir de faim concrètement. En France, on ne meurt pas de faim, à quelques exceptions près malheureuses, mais on ne meurt pas de faim. Par contre, on n'est pas dans une posture où on choisit son alimentation. Aujourd'hui, pour choisir son alimentation, c'est soit on a une carte de crédit qui est capable de pouvoir financer ses achats, soit on ne peut pas choisir son alimentation. Donc, il existe actuellement un système de solidarité alimentaire qui permet de venir compenser ces externalités négatives du marché économique autour de l'alimentation tel qu'il est fait actuellement. C'est une solidarité qui est basée sur une approche classique de la solidarité qui est basée sur un phénomène de charité, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont donner pour que d'autres reçoivent en contrepartie et venir compenser un manquement, une incapacité à pouvoir se fournir. Les penseurs de la sécurité sociale de l'alimentation se sont dit, mais pourquoi on ne pourrait pas aborder différemment ce phénomène de solidarité en ne partant non plus cette fois-ci d'un principe de charité, mais de partir d'un principe de droit. C'est-à-dire on crée un droit à l'alimentation. Aujourd'hui, en s'inspirant de ce qui a été fait évidemment avec le droit de la santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, théoriquement, tel que ça a été établi au sortir de la guerre, qu'on soit au RSA ou qu'on soit millionnaire, on a le même droit d'accès à une santé. C'est-à-dire, peu importe ses moyens, ses ressources, quand on a un cancer, qu'on soit au RSA ou qu'on soit millionnaire, on a le droit d'accéder à des soins. Tout ça, c'est possible parce que derrière, il y a un droit universel à la santé qui est reconnu. En France, il n'y a pas de droit universel à l'alimentation qui est reconnu. C'est une particularité, et c'est une particularité qui dépasse la France, qui concerne à peu près tous les pays occidentaux. C'est-à-dire qu'à l'échelle internationale, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a une définition du droit à l'alimentation, et notamment du droit à l'alimentation durable, qui est ratifiée, par exemple, par la France. Mais à l'échelle nationale, ce droit, il n'est pas existant. Et la réponse que l'on a quand on évoque ça, c'est que ce droit, il est réalisé grâce à l'aide alimentaire. Je voulais, c'est peut-être le moment un petit peu dicté, si vous voulez, je voulais vous dire la définition de ce que serait un droit à l'alimentation durable. Donc, si vous voulez prendre vos carnets, écrire, et après on vérifie s'il y a des fautes, on peut faire ça si vous voulez. Donc le droit, qu'est-ce que serait un droit à l'alimentation durable? Donc là, c'est une définition que j'évoque, qui vient d'Olivier de Schutter, qui était l'ancien rapporteur aux Nations Unies sur l'alimentation, qui explique que ce droit serait d'avoir un accès régulier, permanent et non restrictif, soit directement ou au moyen d'achats financiers, à une alimentation quantitativement et qualitativement adéquate et suffisante. Je vous la redonnerai plus tard, ne vous inquiétez pas, on pourra l'avoir. C'est juste que je vous la transmets. Mais attention, c'est pas fini. Et c'est une alimentation qui correspondrait aussi aux traditions culturelles du peuple auquel le consommateur appartient et qui lui procure une vie physique et mentale, individuelle et collective, épanouissante et exempte de peur. Ce pavé, qu'est-ce qu'il dit ? Il pose la question de savoir est-ce qu'aujourd'hui en France, l'ensemble des citoyens a accès à cette alimentation qui respecte à la fois ses choix, qui respecte aussi ses pratiques alimentaires et qui soit un vecteur d'émancipation, c'est-à-dire que ce soit pas un vecteur qui crée une forme de précarité au niveau des producteurs, mais qui permet à chacun de s'y retrouver. Pas grand suspense sur le fait que ceux qui s'inscrivent dans la SSA considèrent que ce n'est pas le cas, et que du coup, leur premier élément la chose qu'ils souhaitent défendre, c'est de mettre en place ce droit universel à l'alimentation durable. C'est en partant de la logique du droit, c'est-à-dire qu'un individu, en tant que citoyen, aurait le droit, peu importe ses revenus, d'accéder à une alimentation choisie et de qualité. C'est le préalable. Sortir d'une logique de la charité pour compenser les effets négatifs d'un marché et instaurer un droit universel à l'alimentation durable. Donc ça, c'est la base, c'est le principe même. C'est pas anodin, parce que c'est l'alimentation dans nos vies, c'est le dernier élément qui fait que ce n'est pas on n'est pas structuré autour d'un droit, on est structuré autour du marché, de l'offre et la demande, de l'accès, etc. Donc, une fois qu'on a un droit, il faut qu'il soit mis en place, il faut qu'il soit mis en pratique. C'est pas le tout d'avoir un droit reconnu théoriquement. Aujourd'hui, par exemple, vous savez toutes et tous qu'il y a un droit opposable au logement qui permet à tout à chacun de pouvoir revendiquer, demander à que, de pouvoir bénéficier en tant que citoyen d'un toit. Personne ne sera surpris par le fait qu'actuellement, il y a encore des centaines de milliers de gens qui dorment dans la rue et que ce droit, malgré son existence théorique, ne permet pas sa réalisation. Du coup, il faut quelque chose qui permet de mettre en place ce droit. Et ce qu'ont imaginé les concepteurs de la sécurité sociale, et là j'arrive justement à cette idée qui du coup a été lancée dans les années 2019 avec des structures importantes comme Ingénieurs sans frontières Agrista, il y a eu Réseau Salarial, il y a les CILIM que vous avez cités, voilà, il y a différentes structures qui se sont mises ensemble et qui se sont dit comment mettre en place ce droit. Et ce qu'ils ont pensé, c'est de créer un rapport de force, citoyen, qui fait que c'est par une réappropriation de cette mise en place de droit par les citoyens eux-mêmes qu'on pourra faire vivre ce droit, cette ambition du droit, et faire en sorte que chacun et chacune puisse accéder à une alimentation choisie. C'est ce qu'on appelle la démocratie alimentaire. La démocratie alimentaire, c'est un concept théorique qui a émergé dans les années 90. C'est un penseur britannique qui s'appelle Tim Lang et qui a simplement défini la chose de cette manière. Il a dit la démocratie alimentaire, c'est redonner le pouvoir de décision du système alimentaire aux citoyens, c'est-à-dire à ceux et celles qui vont manger concrètement la nourriture qui est produite. Donc vous voyez, c'est après que l'on arrive aux caisses de l'alimentation. C'est parce qu'on a un objectif de droit à l'alimentation qu'on veut mettre en application avec une démocratie citoyenne qu'on arrive ensuite au concret. C'est-à-dire, c'est super de vouloir une démocratie alimentaire, mais comment concrètement ça se passe? Où est-ce que les gens se retrouvent? Qui décide? Comment on décide? Comment les décisions sont prises? Ça, c'est... Voilà, il y a l'idée générale, et puis après, il y a la mise en place. J'ai encore 5 minutes, je pense. Et l'ambition, justement, c'est d'arriver à du concret, et le concret, c'est la sécurité sociale de l'alimentation. Là, on est à la jonction entre deux traditions militantes, qui est d'un côté le droit à l'alimentation durable, les questions environnementales, les questions de production, et de l'autre, on est sur l'imaginaire autour de la sécurité sociale, autour de la construction de cette institution qui est au cœur de nos vies, et qui du coup a permis à un moment donné de l'histoire un basculement. Si la santé, si l'espérance de vie considérablement augmenté en France, c'est pas seulement parce qu'on a amélioré le soin, parce qu'on avait des médicaments, c'est qu'on a permis aux gens de pouvoir y accéder. C'est ça le véritable changement qui fait qu'on a réduit fortement la mortalité infantile, on a augmenté l'espérance de vie. C'est l'accès à l'alimentation. C'est cette sécurité sociale qui a permis de, par un principe de solidarité, chacun cotise selon ses moyens, chacun reçoit selon ses besoins, que derrière on a pu permettre à l'ensemble des Français d'accéder à ce droit à la santé. Ben là, les initiateurs se sont dit, mais pourquoi en fait on ne ferait pas la même chose? C'est-à-dire que dans nos vies, on est couvert pour la santé, on est couvert pour un accident dans nos vies études professionnelles, on est couvert sur la fin de vie, on est couvert pour la famille, et l'alimentation qui est au cœur de nos vies, qui est aussi un des éléments fondamentaux pour vivre en bonne santé, bah lui, il est en dehors de ce système de sécurité. Donc l'ambition, elle est simple, elle est peut-être utopique, mais c'est un terme qu'on revendique, c'est de créer une nouvelle branche de la sécurité sociale, qui serait cette fois-ci appliquée à l'alimentation, selon trois modalités. Un, l'universalité, c'est-à-dire que c'est un droit. À partir du moment où on est citoyen, on a le droit à accéder à cette sécurité sociale de l'alimentation. Donc qu'on soit au RSA ou qu'on soit millionnaire. Chacun aurait le droit à accéder à ce droit. Le deuxième principe, c'est la cotisation. C'est-à-dire qu'on finance ces caisses par la cotisation. Chacun paye à hauteur de ses revenus. Chacun est placé dans une égalité de droit par rapport à tout le monde. Il n'y a pas des gens qui donnent, des gens qui reçoivent. Tout le monde donne à hauteur de ses moyens pour financer la caisse. Et ensuite, on conventionne. Et on conventionne de manière démocratique. C'est-à-dire qu'on crée des espaces où les citoyens des caisses réfléchissent, débattent, prennent des décisions sur quelle est l'alimentation qui va être conventionnée et quelle alimentation qui ne sera pas conventionnée, selon des critères qu'ils auront eux-mêmes définis. Ça, c'est la théorie. Qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans ? C'est que la sécurité sociale de l'alimentation, c'est pour ça qu'on parle de sécurité sociale de l'alimentation et pas de sécurité sociale alimentaire. Sécurité sociale alimentaire, c'est mettre en place un dispositif technique qui viendrait répondre à une modalité qui est celle de permettre aux gens de manger. La sécurité sociale alimentaire, c'est faire que c'est de l'aide alimentaire améliorée, entre guillemets. C'est-à-dire que on a des consommateurs qui n'ont pas ce qu'il faut pour manger, il faut qu'on crée des dispositifs qui leur permettent d'accéder à l'alimentation. C'est une lutte contre la précarité. La sécurité sociale de l'alimentation, c'est la lutte contre la précarisation. C'est-à-dire que c'est un objet politique qui fait que on met autour de la table l'ensemble des gens qui sont concernés par l'alimentation, producteurs, distributeurs, transformateurs, consommateurs, et on décide collectivement de sortir d'un système qui crée de la précarisation par son existence. Donc c'est un système de lutte contre la précarité, ce qui existe actuellement, de lutte contre la précarisation, c'est-à-dire la mise en précarité d'un nombre grandissant de gens. C'est pour ça que c'est vraiment important, quand on parle de sécurité sociale de l'alimentation, c'est que c'est un projet politique. C'est absolument pas un dispositif qui permet aux plus nécessiteux de manger. C'est un objet politique qui permet de créer un espace démocratique où on questionne, on s'interroge, on débat de l'alimentation. C'est quoi une alimentation locale ? C'est quoi le local concrètement ? Si on faisait une caisse ici à Najac, qu'est-ce que ça veut dire le local ? C'est pas la même chose que quand on est en Alsace, le local. C'est quoi le durable ? C'est pareil. C'est quoi les critères pour définir que ce soit durable ? Bah ça, c'est collectivement où on va se mettre ensemble et on va décider. Ben c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire pour l'instant. Je pense que c'est déjà pas mal. Et donc je vais laisser la parole du coup pour vous dire que voilà, et juste pour conclure, donc ça c'est l'idée théorique. Depuis 2 ans, un peu partout en France, des gens se sont emparés de cette idée théorique en disant écoutez, ok, il y a ça, demain on est incapable de créer une branche de la sécu, on n'a même pas le droit légalement. D'accord ? Par contre, on a le droit de faire des petites expérimentations à avec leurs limites, avec leurs inconvénients, mais au moins on va essayer quelque chose, on va essayer d'initier quelque chose. Et là, petit à petit, émergent des initiatives un peu partout en France. Moi, je fais partie de celle de Gironde, il y a eu celle de Montpellier que vous avez évoquée, il y aura celle de Toulouse qui va être évoquée. L'idée, c'est que voilà, pour l'instant, on est dans une phase où on teste, on fait émerger des dynamiques, on teste avec humilité ce qui se passe, et petit à petit, on crée des savoirs autour de ce qui se passe, de ce que ça a comme impact, est-ce que ça permet vraiment aux gens de changer leur alimentation, est-ce que ça permet vraiment aux gens de sortir de la précarité. petit à petit, on se projette sur, sur le lointain. Mais pour l'instant, on est dans une phase où, voilà, où ça émerge.
Voilà. Je vous laisse la parole.
Merci beaucoup, merci David Glory. Alors, bah oui, on peut tout à fait l'applaudir, on aurait raison. Merci. Donc voilà, on a bien compris, on a le schéma de ces nouvelles modalités. On voit émerger quelque chose, c'est un rapport de force, c'est un objet politique, c'est un corpus de droit qui va émerger. Mais tout ça reste abstrait. Alors maintenant, on vous propose de passer dans le concret avec trois personnes, qui, Mireille, Janine et Laure, qui sont de la région, je pense que c'est important de le préciser, et qui font l'expérience locale de ces caisses alimentaires. Alors je vais demander à chacune de bien vouloir se présenter, dire son nom, d'où elle vient, et pourquoi et à quel titre elle est engagée dans ces dispositifs, dans ces processus. Mireille.
Bonjour à tous. Moi, je suis engagée depuis le début de l'expérience qui a permis l'ouverture de la caisse qui vient juste d'ouvrir au 21 septembre, la caisse alimentaire de Toulouse. Le premier projet, c'était depuis 2002, ça fait 2 ans et demi qu'on réfléchit sur la question, mais on n'est pas parti de rien, on est parti d'une association qui est beaucoup dans la solidarité, qui travaillait déjà avec beaucoup de producteurs et avec des livraisons locales, des liens avec pour que les producteurs et les éleveurs et les maraîchers puissent vivre dignement de leurs produits. Donc la réflexion a démarré en 2022. Et chacun, en fonction de sa disponibilité, de sa présence, on a été accompagné par une chercheuse aussi. On est encore accompagné par une action recherche, une chercheuse qui s'appelle Sarah Cohen et qui travaille à l'INRAE. Et je voulais introduire aussi, excusez-moi, j'en profite, la petite BD qui est en vente et qui s'appelle « Encore des patates ». Elle fait partie du début de la réflexion de la SSA au niveau national. Et c'est pas pour rien qu'elle est sortie, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle encore des patates, c'est que justement, les dons qui étaient faits au moment du Covid, quand les restaurants ont fermé, il y avait beaucoup de patates qui restaient sur les bras parce qu'il n'y avait plus de frites qui se vendaient. Et effectivement, ceux qui étaient dans les précarités ne pouvaient pas choisir ce qu'ils allaient manger, ils avaient encore des patates et encore des patates. Voilà. Donc c'est un peu le début de l'explication de cette réflexion et les bases de notre expérience accompagnée. Voilà.
Merci Mireille. Je passe la parole à Janine.
Est-ce qu'on m'entend plus près, Janine, plus près. Janine, plus près du micro. Hein? Là.
Sur moi.
Là. Sous les lèvres.
Ouais, voilà. Oui, c'est bon.
Donc, moi, c'est Janine, je viens de Castanet, qui est au sud de Toulouse, et je fais partie d'un groupe de réflexion de personnes qui sont en précarité. Du coup, on a été inclus par les personnes qui nous soutiennent directement, presque au début du projet. Et ça nous a... On s'est trouvé un peu gêné parce que il y a des termes qu'on ne connaissait pas. Du coup, ben finalement, on y est resté, on s'y est habitué et ça nous a permis de nous intéresser et d'être inclus aussi dans quelque chose. Et de se sentir faire partie et écouter. Et ça, pour des personnes comme nous, c'est important.
Merci beaucoup. Merci, Laure.
Oui, bonjour. Moi, j'ai appris avant-hier que je serais là, donc j'ai pas trop préparé ce que j'allais dire. Donc, j'ai fait partie des débuts de la caisse Sud-Toulouse. Et maintenant, j'habite à Najac. C'est comme ça que j'ai atterri ici aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que moi, ce qui m'a amené à venir à la caisse, c'est d'abord le film La Sociale, peut-être certains ont vu, qui présente la mise en place de la sécurité sociale, qui a été mis en place, je crois, en 1946, à l'occasion du passage d'un ministre communiste, à partir de la fédération de caisses qui existait partout sur le territoire. Et du coup, l'idée de cette caisse autour de l'alimentation, c'est de reproduire un peu ce même système, c'est-à-dire de commencer à fonder des caisses locales et avec l'espoir qu'à un moment donné, il y ait quelque chose qui se passe au niveau national. Et après, il y a une autre porte d'entrée. On m'entend d'ailleurs. Je me rends compte que je rapproche, c'est encore plus fort. Je m'étais intéressée aussi aux pensées autour du réseau salariat de Bernard Friot, qui font partie des initiateurs du groupe national. Et là, il y a une réflexion assez large qui inclut l'alimentation, mais tous les domaines en fait de la vie. Et l'idée, c'est même de créer aussi une sécurité. Il y a des gens qui se penchent sur la sécurité sociale de la culture, la sécurité sociale de la mort aussi, et de cette fin de vie qui est devenue aussi un marché. Et avec l'idée que, à terme, on pourrait imaginer que le salaire soit en soi un droit dont chacun disposerait comme un droit économique à faire valoir en disant, ben voilà, à un moment donné de la société, les gens qui sont là ont envie d'encourager telle ou telle production, voilà, et de ne pas être soumis à des lois de marché préexistantes avec des leviers très forts d'incitation à telle ou telle action.
Merci beaucoup. Alors, ces présentations sont claires, mais il y a une chose que moi je n'ai pas comprise. Qui a porté ces initiatives? À vous écouter, on a l'impression qu'elles sont un petit peu tombées du ciel, mais il a bien fallu qu'à un moment donné, il y ait à la fois une impulsion, et puis pour que l'impulsion prenne, derrière il faut un portage. Il faut un portage au minimum local, associatif, sinon plus largement politique. Alors comment est-ce que tout ça s'est mis en place?
Caracol, notre association à Ramonville, donc était déjà beaucoup en contact avec des producteurs, des marchés locaux, organiser des marchés locaux, a beaucoup aidé aussi au moment du Covid, à permettre aux maraîchers de pouvoir vendre leurs produits par l'intermédiaire de marchés organisés, qui étaient des marchés, parce que le marché était interdit, il fallait aider ces producteurs. Mais on a pu, on a été contacté par Sarah Cohen, qui était là pour, dans le cadre de son projet Action Recherche, qui cherchait à mettre en place des expérimentations sur cette sécurité sociale de l'alimentation. Et il se trouve que ça correspondait aussi à nos valeurs solidaires et ça nous permettait d'avancer vraiment sur quelque chose de concret. Au début, ce n'était pas évident de croire à ce projet. Et quand je dis il y a 2 ans et demi qu'on y travaille, au début c'était un peu théorique, c'était déjà apprendre à se connaître, apprendre à mieux connaître l'alimentation à travers la production. On n'est pas tous issus du monde paysan pour savoir comment ça marche la culture, comment ça marche la pêche, comment on peut apprendre un petit peu plus à connaître la bonne alimentation qu'il nous faudrait. Donc ça a été toute une période pour apprendre à mieux connaître tout ce qui est alimentation, à s'approprier des enjeux avec des programmes de visite, de conférences et de réflexions collectives sur qu'est-ce qu'on voulait instituer dans cette caisse, qu'est-ce qu'on voulait y mettre, qu'est-ce qu'on voulait conventionner, qu'est-ce qui nous semblait être bon pour nous et pour la planète et pour les producteurs. Et tous ces enjeux-là étaient coordonnés par Sarah Cohen jusqu'au lancement de la caisse. Mais là, nous n'avons pas encore d'expérimentation parce qu'elle vient juste de démarrer au 1er octobre. Donc nous avons notre carte, nous avons quelques conventionnements. Il faut continuer à avancer maintenant et à expérimenter.
Et juste pour compléter, Moi, ce dont je me souviens, c'est que donc il y avait une commission qui s'occupait des circuits courts dans l'association, et que certains membres étaient allés voir la projection d'un film qui s'appelle La part des autres. Et tout le monde est sorti de ce film enthousiasmé en disant il faut qu'on se lance. Et donc il y a eu un certain nombre de réunions qui ont commencé et qui ont scindé cette commission. Du coup, il y a une nouvelle commission spéciale pour la sécurité sociale de l'alimentation. Et dans un second temps, Sarah Cohen a proposé de venir pour faire partie de ce groupe et accompagner ce groupe.
Donc, si je comprends bien, une espèce de convergence des convictions qui a permis à tout ça de naître et de cristalliser. Alors, moi, j'ai une question pour vous, Janine. C'est bien qu'il y a des gens qui mettent des projets en place et tout, formidable. Mais comment vous, est-ce que vous avez connu ce projet ? Comment on communique autour de ça ? Comment est-ce que ça vous est arrivé aux oreilles ?
C'est par des personnes. C'est par des personnes qu'on appelle des compagnons qui nous accompagnent à Bartimé.
D'accord. Bartimé, qu'est-ce que c'est ?
C'est un groupe de réflexion biblique qui regroupe des gens notamment des gens en précarité. On se réunit grosso modo une fois par mois. On commence pour ceux qui veulent par aller à la messe dominicale et après on a un repas et par la suite on a un partage sur la parole.
Merci beaucoup. Alors on a l'impression quand on vous écoute, on a l'impression que finalement c'est le lien qui est au centre de tout ça.
Pour nous, du moins pour moi et pour d'autres, c'est important de se sentir reconnu et écouté et peut-être aussi au fur et à mesure compris.
Merci beaucoup. Alors, donc on commence à mieux voir les choses et comment ça fonctionne. On ne peut pas donc vous demander, Mireille, si votre initiative a du succès, puisqu'elle a 18 jours. Donc ça, on verra plus tard. Est-ce que, à votre connaissance, David, Laure, il y a des expérimentations qui ont déjà, voilà, qui montrent déjà qu'elles sont valables?
Là, aujourd'hui, en l'état actuel des choses, il y a l'expérimentation la plus ancienne, c'est celle de Montpellier, elle a un an et demi. Début décembre, si ça vous intéresse, si vous voulez faire le trajet à Montpellier, ils font le séminaire de restitution qui a lieu le 4 décembre, où en gros, ils vont faire le premier bilan sur un an et demi d'expérimentation du côté scientifique, c'est-à-dire que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que toutes ces expérimentations, elles sont suivies par les équipes de recherche qui essayent de documenter ce qui se passe, qui font des enquêtes d'impact concrètement. Voilà. Donc, tout ça, c'est documenté pour pouvoir ensuite avoir un regard critique sur ce qui se fait et pour pouvoir aider à sa construction. Donc Montpellier et donc celle de Gironde, qui est celle à laquelle je participe, qui elle a 6 mois là d'ancienneté. Alors ça veut dire quoi 6 mois d'ancienneté? Ça veut dire que ça fait pas 6 mois que les gens sont mis autour d'une table pour commencer à faire quelque chose. Ça veut dire que ça fait 2 ans que le projet il a été construit petit à petit, mais ça fait 10 ans qu'il y a un terreau de structures qui travaillent sur les territoires dans lesquels se trouvent ces caisses. Donc concrètement, depuis le 19 mars, il y a 400 citoyens répartis sur 4 territoires différents en Gironde. Donc on a 2 territoires en métropole bordelaise et on a 2 territoires ruraux qui sont à 1h15 de Bordeaux, qui cotisent tous les mois pour recevoir tous les mois une somme d'argent. En l'occurrence, c'est 150 € par foyer plus 75 € par personne composant le foyer. Donc ça veut dire que si vous êtes tout seul, vous avez 150 €, si vous êtes deux, c'est 225, si vous êtes trois, c'est 300, et après je vous laisse faire les calculs. Pour acheter des produits qui sont conventionnés selon les chartes qu'ils ont eux-mêmes déterminées au cours d'un travail de 6 mois. Donc je vous ai dit, tout le monde cotise, la règle qui est celle de Gironde et qui pour l'instant est un peu celle des autres caisses aussi, c'est l'autodétermination, c'est-à-dire que c'est un principe de confiance. Il y a un montant minimal de cotisation qui a été posé, donc c'est, en l'occurrence en Gironde c'est 10 euros. Ensuite, c'est à chacun de déterminer, selon son niveau de ses revenus, selon son niveau de vie, un montant de cotisation qui correspond à ce qu'il est en capacité de pouvoir payer. L'idée, c'est que, étant donné qu'il n'existe pas de taux de cotisation sur les questions d'alimentation, on partait du principe qu'on ne savait pas à quel montant on pouvait imposer une cotisation. Et on a trouvé ça plus intéressant sur le plan scientifique de dire, ok, on laisse le choix aux gens par un travail collectif. L'idée, c'est qu'on travaille sur la cotisation pendant les réunions, et après chacun aussi fait son choix en conscience, détermine un montant. Ce qu'on voit par exemple, c'est qu'à Montpellier, en gros, le résultat au bout d'un an et demi, c'est que 60% de la caisse est financée par la cotisation volontaire. C'est-à-dire que, en gros, le budget moyen des cotisations à Montpellier, c'est 60 euros par foyer. Et comme chaque foyer reçoit 100 euros pour ses achats alimentaires, bah, voilà, 60% de la caisse est financée par la cotisation. En Gironde, c'est un peu différent. On a, là aussi, on a 60 euros de moyenne de cotisation par mois, donc c'est-à-dire volontairement, la moyenne, c'est les gens donnent 60 euros. Mais vu que nous, on a un taux d'allocation qui est bien supérieur, du coup, on n'est pas à 60% de financement de la caisse. On est plutôt autour de 30% pour l'instant, 35%. Tout ça, ça nous donne des éléments pour se dire, ok, qu'est-ce qui fait que d'un côté, on a plus, qu'est-ce qui fait que d'un côté, on a moins. Donc, on fait des enquêtes, on interroge, etc. En tout cas, on voit que l'adhésion volontaire, la confiance, c'est ce qui fait que les gens se sentent concernés et c'est ce qui fait que les gens viennent autour de la table discuter, exprimer leurs ressentis par rapport à ce qu'ils vivent sur la caisse. Parce que, je vais terminer sur ça, il faut bien avoir conscience que participer à la caisse, c'est perdre quelque chose pour tous ceux qui sont dedans. C'est perdre des habitudes alimentaires qu'on peut avoir et que la caisse n'a pas forcément conventionné. C'est peut-être perdre des habitudes aussi d'achat dans des lieux qui ne sont pas forcément conventionnés. C'est aussi potentiellement perdre une place. Voilà, quand on se retrouve quand on est donateur régulier, par exemple, quand on a les moyens de faire vivre la solidarité, quand on donne tous les mois une association, etc. Là, on se retrouve dans un environnement où, en fait, on est tous à égalité. C'est-à-dire que mon voisin, c'est pas moi qui donne et lui qui reçoit. C'est, on donne tous à une caisse commune, on est tous à égalité autour de la table, et on va tous se mettre au travail pour décider de quelque chose. Donc on a tous à y perdre quelque chose, on a aussi des gens qui perdent beaucoup en termes de sécurité dans les choix alimentaires qu'ils font. C'est-à-dire que les produits qui sont conventionnés, nous c'est ce qui se passe à Bordeaux, mais c'est ce qui se passe à Toulouse aussi, ils ont des niveaux d'exigence qualitatives qui sont importantes, qui sont plus chères, évidemment, qui ne sont pas vendues dans tous les magasins. Donc certaines personnes, elles ont pas les habitudes de ces lieux-là, elles n'ont pas les habitudes de ces produits-là, et ça a un coût d'entrée qui est très important pour certaines personnes de commencer à utiliser ces produits, ces nouveaux produits conventionnés. Donc faire partie d'une caisse, c'est accepter de se mettre un petit peu en danger. C'est ce qui fait que nous, dans les caisses, en fait, on a des caisses de volontaires. Ce ne sont que des volontaires qui participent aux caisses. D'accord ? Donc, ça interroge le côté universalité, c'est la limite pour l'instant. Pour l'instant, on a une universalité de volontaires. Mais ça nous permet de dire que vouloir participer à une caisse, c'est se mettre en danger, c'est faire le pas en avant pour expérimenter quelque chose de nouveau. Et donc, c'est un peu aussi un travail sur soi de se dire bah, jusqu'où je suis prêt à me mettre en danger pour essayer de faire vivre une utopie qui peut-être un jour pourra être généralisé. Voilà.
Merci beaucoup. Laure, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose?
Je voulais... Oui, il m'est passé des choses par l'esprit.
Rattrapez-la.
Il y en avait une qui était par rapport à une de mes motivations à faire partie des caisses, c'était aussi que... Ça, c'est un autre de mes questions. questionnements et mes expérimentations depuis un moment, c'est aussi de mettre de l'argent en commun, de décider sur l'argent, parce que c'est un tabou énorme et qui fait que aussi, on se met à râler sur ce que l'État devrait faire ou pas faire, quel est le budget, ou alors on se met à râler sur les banques qui ont pris le pouvoir sur l'argent, mais en fait, nous-mêmes, on vit plutôt avec l'idée que il ne faut pas prêter de l'argent entre amis, sinon l'amitié va se casser, etc. Et donc, se mettre à discuter avec des gens qu'on rencontre, avec qui on a des liens sociaux, de mettre de l'argent ensemble, c'est aussi briser ce tabou-là. Voilà. Et puis en entendant parler mon voisin, je me suis dit aussi que ça remettait en cause cette idée que c'est celui qui paye qui décide. Puisque là, il peut y avoir des gens qui payent, quelque part, et qui ne décident pas, en tout cas qui décident à égalité avec des gens qui ne payent pas. Voilà. Même s'il y a tout le monde qui donne, il y a quand même un effet de base communicant.
Merci beaucoup. Donc on comprend que pour rentrer dans ce système, il faut être quand même rudement volontaire, prêt à changer résolument d'habitude, déconstruire un certain nombre d'us et de coutumes. Alors ça me fait me poser cette question. Est-ce que finalement toutes ces initiatives, elles ont de l'avenir? Et si oui, lequel? Mireille.
L'avenir, c'est plutôt les chercheurs qui nous le diront hein, avec toutes leurs études, puisque nous, on démarre tout juste et on continue à être au travail pour conventionner plus de producteurs, de maraîchers, d'épiceries, pour pouvoir faire rentrer d'autres adhérents. Mais pour l'instant, on avance sur notre premier test pour le premier trimestre jusqu'à fin décembre. Et je ne sais pas, à un moment donné, on va commencer à faire un premier point, mais pour l'instant, c'est un peu tôt. En tout cas, c'était depuis 2 ans et demi une aventure riche en rencontres et en partage. Voilà. Et même si c'était un peu dur de s'imaginer qu'on allait arriver à quelque chose, c'est quand même une grande victoire déjà d'avoir lancé la caisse et de se dire, ben voilà, on y est, et puis maintenant, on continue d'avancer avec en y croyant de plus en plus.
Merci. Et vous, Janine, alors comment vous voyez l'avenir avec cette caisse à Lim, là, comment est-ce que vous voyez les choses?
Pour moi, c'est un peu compliqué. Tant que je ne l'ai pas vraiment expérimenté et touché du doigt,
oui.
C'est pas... Ça va venir.
Oui, oui. Non, non, mais on comprend bien, ça veut dire que c'est en germe, c'est pas encore sorti. Voilà, ça se...
Moi, j'avais envie de vous montrer la carte de la caisse. Pendant que vous répondez, je vais vous chercher.
La carte de la caisse.
La carte vitale.
C'est pas la peine aujourd'hui, là.
Bon, Janine a cette carte. Alors, si j'ai bien compris, c'est un peu comme une carte de sécurité sociale.
Attends, si je vois trop.
Une carte magique, alors il faut bien nous décrire comment on l'utilise. Janine, vous pouvez nous expliquer comment vous l'utilisez? Donc elle s'appelle Vitalim. Hein,
elle sera utilisée chez les commerçants et dans les commerces qui seront conventionnés et sur les produits qu'on aura choisi de conventionner. Notamment en particulier, pour commencer, ça sera les produits de base.
Ce sera pas, on va pas commencer par le Coca-Cola.
Non. Ou même par le vin.
Oui, non mais c'est intéressant parce que on voit bien qu'il y a un chemin à tracer. Les choses sont pas toutes faites et c'est là que vous avez du poids, parce que vous choisissez.
Et d'ailleurs, je tiens peut-être à dire aussi que certaines personnes de notre groupe font partie déjà d'une association de petits producteurs.
Une association de petits producteurs, oui. Et donc vous êtes également en lien avec les producteurs. D'accord. Et qu'est-ce que ça change pour vous de connaître les gens qui produisent ce que vous mangez?
Ça, ça a donné à certaines personnes, ça leur a redonné l'envie et l'intérêt de cuisiner.
Ouais. Mais c'est fondamental, c'est fondamental. David, est-ce que vous voulez réagir là-dessus?
Il y a quelqu'un qui va entendre la conférence de l'extérieur.
Voilà.
Oui, je voulais vous partager par exemple là où on est vraiment rentré dans le concret. Donc moi, mon travail, ça consiste à suivre les réunions. Donc en gros, les réunions, c'est une fois tous les 15 jours, la caisse se rassemble et travaille ensemble. Quand on dit caisse, ça veut dire chaque foyer a la possibilité de participer. Donc en gros, ça fait des réunions à 25-30 personnes, où on va réfléchir à ces critères de conventionnement. Et nous, pour vous dire jusqu'où ça peut aller, mais comment la réflexion est faite, oui, le vin, à un moment donné, on s'est posé la question. Pourquoi on ne conventionnerait pas du vin? Est-ce qu'on peut boire un petit coup de vin local? Est-ce qu'on a le droit aussi de pouvoir avoir la production de vin? Moi, je viens de la Gironde, vous imaginez l'enjeu que ça représente. Donc la décision a été prise de dire bon, pour l'instant c'est pas la priorité, je sais pas, j'ai le micro qui gravite, c'est pas la priorité, donc on la met de côté. Mais par contre derrière on a des discussions sur on va conventionner une nouvelle boulangerie, est-ce qu'on conventionne tout dans la boulangerie, est-ce que on va conventionner ce type de farine là, ce type de farine elle a été produite où, elle a été produite ici, donc on crée sur chaque lieu des discussions sur comment les choses sont produites et sur où on a envie que ça aille. Pour vous donner un exemple concret, comment ça se passe en Gironde, on va d'abord conventionner un lieu à partir de 5 critères. 5 critères, c'est la localisation des produits, la manière dont ça a été produit, le bien-être au travail des travailleurs qui sont dans l'entreprise, la transparence des prix. Et forcément, quand je vous le dis, j'ai oublié le cinquième, parce que là, je vous regarde et du coup, le cinquième, il est parti. Transparence des prix, accessibilité aussi. D'accord ? C'est-à-dire qu'il faut que le lieu soit accessible à tous les publics. Si un lieu remplit ces 5 critères, il va être conventionné à 100%. C'est-à-dire que les produits conventionnés à l'intérieur du lieu vont être accessibles et remboursés à hauteur de 100% par la carte. Si un lieu remplit 4 critères, il remplit tous les critères, mais la localisation, c'est pas terrible. Il favorise plutôt des produits qui sont un peu plus loin, parce qu'il faut bien manger, donc il faut faire des compromis. Et ben, du coup, on va dire, ok, il y a 4 critères de sélectionner, de valider, donc les produits vont être conventionnés à 75%. Et si on est à 3 critères, si par exemple la production n'est pas aussi exigeante que ce qu'on aurait envie, ben là, il va conventionné avec 3 critères, donc à 50%. Et l'idée, c'est que ça soit incitatif, c'est-à-dire qu'on crée une dynamique, on dit, cet objectif-là de maximiser une production qui est plus locale permettrait d'avoir un critère supplémentaire et donc un niveau de prise en charge supplémentaire et donc de favoriser ce lieu. Et donc c'est ça qui a été mis en place et c'est ce qui fait que pour tous les lieux, les citoyens, c'est un petit groupe de citoyens, c'est 3 personnes qui vont voir le lieu, qui vont visiter, qui vont discuter avec le gérant, qui vont demander des informations, qui reviennent en caisse, qui échangent avec la caisse. Une décision est prise à ce moment-là, on retourne au magasin pour spécifier la décision, pour peut-être un complément d'information et pour acter un conventionnement et mettre en place le système de paiement qui a été dit. Donc voilà, c'est concrètement c'est ça à conventionner, c'est-à-dire partir avec une charte, aller voir le lieu, discuter, prendre les informations, revenir en caisse, décider collectivement, oui, non, et ensuite on peut faire ses achats.
Merci beaucoup. Vous voyez tout l'itinéraire, hein, quasiment de la philosophie politique au conventionnement avec ces différentes gradations. Alors on va vous passer la parole maintenant pour que vous puissiez donc poser vos questions. Je vous demande de bien vouloir, quand vous posez une question, vous levez pour qu'on vous voit et de dire à qui vous adressez la question. Pas à la cantonade, s'il vous plaît. Donc voilà, les micros peuvent circuler. Il manque un micro, hein, donc on avait 3, on n'en a plus que 2. Il y en a un qui a disparu en cours de route. Bon. Et pour celui-là, il
faut... Est-ce que je peux commencer par poser moi-même la première question?
Merci, Claudine.
J'en profite d'avoir le micro. Vous me direz que je l'ai assez souvent. J'avais une question pour David Glory. Pour un instant, revenir au modèle théorique. C'est passionnant. Hein, je vous remercie tous de votre témoignage. C'est passionnant cette idée de dire on crée une nouvelle branche de la sécurité sociale avec ce qu'elle a d'universalité, puis de cotiser selon les moyens et de recevoir selon les besoins, parce que c'est un des grands succès de la France d'avoir créé ça. Ça n'existe pas partout dans tous les pays de la même façon. Sauf que dans le domaine de la santé, vous avez un secteur qui est déjà public en grande partie. Alors que là, avec l'alimentation, vous êtes dans un secteur qui est complètement géré par le marché. Donc est-ce que, du coup, c'est sur le conventionnement, est-ce que ça ne rend pas cette création d'une branche, nouvelle branche de la sécurité sociale plus compliquée dans la mesure où vous êtes dans un secteur dominé par le marché et qu'on ne peut pas rendre public parce qu'on n'a pas non plus envie de faire des call-causes ou des soft-causes?
Alors en fait, quand la Sécu s'est créée, donc en 46. Alors juste précision, je ne sais pas si quelqu'un, si vous savez combien il existait de caisses en 45 quand la Sécu a été mise en place. 50 à ma gauche, au milieu. Il y avait 1200 caisses. C'est-à-dire que 46, c'est pas la création de la sécurité sociale, c'est la création du régime général. C'est-à-dire qu'on rassemble la majorité des caisses, le plus grand nombre de caisses possible, avec un taux de prestation unique, un taux de cotisation unique, avec des règles de fonctionnement uniques. En 46, le système d'accès à la santé publique n'existait pas. Il a été créé grâce à la mise en place de la sécurité sociale, et notamment à la création de la cotisation. Ce qu'il faut imaginer, la cotisation, c'est vraiment pas un outil qui permet simplement à des gens de cotiser pour recevoir une allocation, acheter des produits et puis rentrer chez eux. La cotisation, c'est un objet, c'est un outil politique qui peut servir à plein d'autres choses. Peut-être que vous ne savez pas, mais l'ensemble des CHU de France ont été financés en partie grâce à la cotisation. Les CHU n'ont pas été financés par le marché, par les prêts de banque. Ils ont été financés grâce à la cotisation et avec d'autres aides, en grande partie par la cotisation. L'idée de la cotisation, c'est ça, c'est de se dire oui, il y a un système alimentaire à recréer, ni plus ni moins. Mais il y a un outil qui est la cotisation. Là, en ce moment, il y a des discussions dans les expérimentations de dire bah, on a un problème sur l'impact que ça a sur les petits producteurs. C'est-à-dire, on a conventionné les petits producteurs et on a conventionné des magasins généralistes, type Biocoop, par exemple. Les habitudes alimentaires font que, et c'est un chiffre qu'on a déjà sur trois expérimentations différentes, à peu près 70 à 80% de montant global des allocations sont dépensés dans ces lieux-là. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas faire la tournée des marchés pour aller acheter le fromage de chèvre ici, la viande là, le poireau ici, etc. Passer son temps sur les trajets, etc. Donc les gens, ils continuent à aller dans les magasins généralistes. Là, on peut imaginer que bah, si notre but, c'est de favoriser l'alimentation locale, c'est un, soit on réagence le circuit en faisant que les magasins généralistes s'apprivoisent avec les petits producteurs. Ou alors, on peut imaginer que les caisses financent la mise en place d'un magasin de producteurs, par exemple. C'est-à-dire qu'on ne fait pas supporter le poids de l'investissement aux producteurs, on prend en charge cela par la cotisation, on crée un espace où ces producteurs pourront justement vendre et permettre d'être accédés. Deuxième chose, on peut aussi réorienter les risques que les producteurs prennent sur leurs propres épaules au nom de la collectivité. Pourquoi est-ce qu'un producteur de devoir gérer une crise climatique sur sa production? En quoi il est responsable d'une sécheresse, par exemple? Pourquoi c'est à lui, individuellement, de supporter le poids? On pourrait estimer que maintenant, c'est à la caisse de supporter ça. Et donc, ça veut dire qu'on va assurer les conditions de production pour que les producteurs... Et donc, la cotisation permet justement d'envisager ces investissements qu'il y aura besoin de faire, et donc pouvoir arriver vers la création d'un marché public de l'accès à l'alimentation. Donc c'est ça un peu le poids que peut représenter la cotisation.
Merci.
Bonjour, Arnaud Lebrun, Sylvain Cordet, Thierry Segala et Najakwa. J'aimerais justement en boîter de pas sur la réponse apportée à l'instant. Et vous avez présenté la sécurité sociale alimentaire de l'alimentation sous l'angle des revenus, que ce soit de la part des consommateurs comme des producteurs. Est-ce que vous menez une réflexion sur l'autonomisation des paysans, parce que j'aime bien utiliser le terme de paysan pour ceux qui se réapproprient le travail de la terre. En deux mots, après 1945, il y a eu un double phénomène, non seulement de privatisation et de concentration dans le domaine de l'alimentation, mais aussi de perte des savoir-faire traditionnels locaux. Donc un des critères que vous avez nommé, c'est la localisation, c'est-à-dire du côté local de la production. Mais il y a aussi, au niveau local, il peut y avoir des producteurs qui font du très conventionnel, comme des petits artisans qui vont utiliser, qui vont respecter la terre, pour faire simple. Cette semaine, on a fait venir par exemple un spécialiste de l'apiculture au Thierry Segala, et il y a tout un savoir-faire à se réapproprier en termes de production respectueuse de la nature, et donc in fine respectueuse du consommateur qui va consommer des produits de ce producteur. Est-ce que vous avez une réflexion menée dans ce cadre-là ? Merci.
C'est finance de retraite.
En fait, à partir du moment où il existe un espace, on peut mettre ça sur la table. C'est-à-dire que un des enjeux aussi des expérimentations, c'est de définir quelle est la bonne taille géographique pour faire des caisses. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on va se sentir appartenir à un territoire et donc se sentir concerné par ce qui se passe et par les savoir-faire qui sont, par exemple, existants sur le lieu. Et donc, en Gironde, le fait qu'on ait quatre caisses, on a une caisse, c'est sur une commune. On a une autre caisse, c'est sur quatre quartiers prioritaires de la ville dans Bordeaux. On a une autre caisse, c'est une communauté de communes. Il y a 35 bornes entre le nord et le sud de la caisse. Donc on a des territoires différents. Et on crée un espace où justement on peut mettre ça en avant. C'est-à-dire que localement, s'il y a des savoirs dont on estime fondamental de préserver, on va pouvoir en mettre comme étant une des conditionnalités du conventionnement sur ce territoire-là. Et donc on va favoriser des débouchés, on va dire, par rapport à ce type de production, et donc derrière de pouvoir maintenir le savoir-faire. Donc et là encore, c'est le poids que la caisse peut se donner, c'est de se dire, mais si on veut préserver des savoirs qui sont en train de disparaître, on peut investir dans la sauvegarde de ces savoirs-là, en conventionnant que les produits qui sont issus de ce savoir-là, ou alors après, en pouvant aussi, pourquoi pas, imaginer une partie de l'argent qui va servir à former des nouveaux producteurs à partir des savoirs existants, ou qui va permettre de faire de la formation, typiquement. Et en fait, ce levier-là, du coup, il devient mobilisable localement, puisqu'en fait, il y a un espace qui est local et qui peut, du coup, être utilisé. Et donc, c'est ce qui est important, c'est d'essayer de trouver la bonne échelle pour que ce ne soit pas noyé dans un trop grand espace, et que ce ne soit pas non plus trop réduit à un tout petit espace. Il faut trouver la juste mesure, quoi.
Oui, bonjour. Une question plutôt à David Glory. Question pratique, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur le fonctionnement. Je suppose que ces centres de l'alimentation fonctionnent à peu près sous le régime associatif. Vous avez parlé de l'initiative et des gens qui portent ces projets, principalement les consommateurs. Vous avez aussi évoqué les producteurs et les distributeurs. Quelle place vous leur réservez dans le fonctionnement, dans la gouvernance de ces centres ? Puis vous avez évoqué aussi le financement, selon les centres, des cotisations qui représentaient 60 ou 30%, si j'ai bien noté. D'où viennent les autres financements ?
L'argent, le nerf de la guerre, comment on fait ? Déjà, il faut bien avoir en tête que pour l'instant, donc l'objectif, c'est la cotisation. Pour l'instant, on n'est pas en mesure de créer une cotisation, donc on bricole. il y a des contributions volontaires des gens qui participent, et puis du coup il y a toute une partie qui n'est pas suffisante pour mettre à l'équilibre les caisses. Donc nous, le choix qui a été fait, qui n'est pas forcément le choix de tout le monde, c'était de se tourner vers les collectivités publiques qui étaient, dans le cas Girondin, motrice des départs, qui voulaient nous, le département en l'occurrence, c'est la mairie de Bordeaux qui sont partie prenante. Le département de la Gironde était volontaire pour pouvoir tester sur son territoire une expérimentation de caisse. Donc ils ont mis des moyens financiers. Nous, pour être très clair, notre budget pour un an, pour 400 personnes, pour 150 euros plus 75, etc., c'est 530 000 euros. Donc on a il y a 250 000 euros qui viennent du département, puis après il y a la mairie, et après il y a les cotisations. L'idée des subventions, là, c'est un palliatif. C'est vraiment en attendant de lancer la dynamique de créer une cotisation, on utilise ça pour pouvoir tester, avancer, commencer. Là, les réflexions en Gironde, à l'heure actuelle, ils sont se dire, bon, maintenant, il faut qu'on aille se tourner vers le secteur privé, il faut qu'on aille. On a des contributions volontaires de cotisants individuels. L'idée, c'est d'aller chercher des contributions volontaires d'entreprises qui, philosophiquement, se retrouvent dans le projet, ont envie potentiellement de participer à ça, croient au projet, etc., et seraient prêtes à contribuer aussi. Donc pour pouvoir petit à petit réduire la part de subvention et petit à petit construire un modèle économique qui serait basé autour de la cotisation. Et la première question, sur les producteurs, très honnêtement, pour l'instant, les expérimentations en France, elles sont quand même majoritairement portées d'un point de vue des consommateurs. Pourquoi ? Parce que historiquement c'est comme ça, c'est comme ça que la première accroche elle est faite. On a des producteurs qui sont impliqués, qui suivent le projet, pas suffisamment, mais là on arrive dans d'autres contraintes, c'est-à-dire que typiquement ça veut dire prendre du temps de sa production pour venir aux réunions, ça veut dire participer, s'engager sur le long terme, avec des moments de récolte, avec des moments de vente, etc. Et donc là, par exemple, les caisses sont en train de réfléchir, il faut qu'on rémunère ce temps de présence des producteurs. Donc il faut qu'on mette une partie de nos cotisations pour compenser la perte, on va dire, du fait que les producteurs viennent participer aux caisses. Voilà, ça c'est des petites choses, mais pour l'instant, très honnêtement, on n'est pas encore... on n'est pas du tout satisfait de l'implication des producteurs, et donc on réfléchit à comment les impliquer davantage. Après, je ne sais pas si y a toutes vos idées.
Oui, j'avais deux autres idées aussi, tout simplement parce qu'il y a quand même bien moins de producteurs que de consommateurs. Donc, juste démographiquement parlant, ils ont plus de chances d'être moins nombreux. Pour la caisse Sud-Toulouse, vu que c'est la ville aussi, c'est pas forcément là où ils habitent, donc c'est une question aussi géographique. Voilà. Et après, je connaissais pas cette initiative de réfléchir à rémunérer les producteurs pour qu'ils fassent partie des caisses. Ça peut être une idée, mais l'idée de prendre du temps pour participer aux caisses, ça vaut pour tous les gens qui y participent.
Question.
Oui, merci d'abord de nous présenter ce projet qui semble passionnant. Une question très simple, il y a des questions à plusieurs reprises de Sarah Cohen. Donc, je voulais savoir simplement si je n'avais pas entendu qui elle était, ou est-ce que vous pouvez nous préciser quel a été son rôle dans ce projet. Merci.
Mireille. Elle parle pas beaucoup, Mireille. Il faut qu'elle parle.
Sarah Cohen nous accompagne depuis le début du projet, quand elle a rencontré Caracol, qui avait déjà des expériences donc au niveau alimentaire et marché locaux. Et donc c'est dans le cadre d'un projet Action Recherche, hein, comme toi, David, c'est ça. Donc elle est financée
par la Fondation de France.
Fondation de France. Et donc elle nous accompagne depuis 2022. Elle a également écrit un ouvrage avec quelqu'un d'autre qui apparemment est en vente. Et moi, j'ai découvert en lisant l'interview de La Vie, l'interview de Sarah Cohen qui est dans le dossier de La Vie, qui est l'objet de vos rencontres, là, ce dossier sur la nutrition. J'ai découvert qu'elle avait écrit ce livre parce que ce sont très peu en avant finalement, mais elle nous a beaucoup accompagnés et elle continue. Donc notre prochaine réunion, c'est lundi soir avec un boulanger paysan qu'on a questionné, enquêté et qui est rentré dans le conventionnement et qui vient nous parler de son métier, et avec une éleveuse qui vient aussi nous parler de son métier dans le cadre de notre prochaine réunion lundi soir. Alors on continue à réfléchir, à se former et à chercher des conventionnements. Voilà, avec Sarah Cohen qui nous accompagne, qui est ingénieure à l'État. Tu as oublié
de dire qu'elle était à ISF, ingénieure sans frontières.
Ah oui, à l'origine elle était à ingénieure sans frontières. À Gristan, c'est ça, oui, c'est ça. Au début de projets qui ont été évoqués déjà tout à l'heure au niveau national.
Une question sur le fonctionnement de notre...
Je complète juste un petit peu. On peut dire sur Montpellier, l'équivalent de Sarah, c'est Pauline Scherrer, dont vous avez peut-être entendu parler. Donc chaque initiative d'expérimentation de la sécurité sociale a un doctorant, un chercheur. Donc à Montpellier, c'est Nicolas Bricas et Pauline Scherrer.
Une question ?
Une question sur le mode de fonctionnement de votre coopérative d'achat, si j'ai bien compris. Bon, je connaissais un peu le fonctionnement des coopératives agricoles, des coopératives de producteurs. Et là, la question que je me pose, c'est comment sont rétribués les producteurs dans votre système ? Qui les paye ? C'est les acheteurs ou c'est votre structure qui...
Là, on est en pleine réflexion pour les nouveaux conventionnements. Il peut y avoir des AMAP qui puissent être conventionnés, mais tout dépendra du mode de versement, puisque en principe, une AMAP, on accompagne un maraîcher ou un agriculteur, et le principe, c'est de payer en amont, de verser en amont pour pouvoir faire de la trésorerie pour cette AMAP. Donc, tout dépend le mode de financement. Il y en a qui seront... Il sera possible de conventionner comme des AMAP qui ont lieu dans le cadre d'établissements scolaires, par exemple, comme le lycée agricole à Roseville. Il faut qu'ils doivent se retrousser les manches aussi pour avancer avec nous. Et puis, c'est en train de se mettre en place sur le règlement, soit par le biais de la carte, soit par le biais de, un peu comme des tickets restaurants, pour ceux qui ne peuvent pas alimenter leur carte par un versement, par un virement, ils auront leur rétribution de MONA, ce qui est la monnaie alimentaire qui est choisie, sous forme de tickets, comme les tickets restaurants, à certaines valeurs. Et ces tickets seront récoltés par des bénévoles. L'argent qui aura transité aussi sera récolté parce qu'il y a des gens qui vont verser leur cotisation par des espèces parce qu'ils n'ont pas la possibilité de faire des virements. Donc on va récolter les espèces, les amener dans la banque. On a l'aide du sol violette, nous, qui est au niveau de Toulouse et qui gère avec nous le versement par une caisse à part pour nous. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, parce que c'est encore tout ça, c'est en train de se mettre en place.
On prend peut-être une dernière question, oui. Ou deux.
Moi, je voulais poser une question sur la régulation des prix. Ici. Pardon. Sur la régulation des prix, c'est-à-dire que l'accessibilité, c'est bien, mais je suppose que si on vous allez vers les biocorporates, c'est quand même un peu plus cher. Ou les producteurs veulent un juste prix qui est peut-être accessible à certains revenus et pas à d'autres. Est-ce que ça va aussi dans le système à se dire tout le monde fait un effort pour que le prix, économiquement, chacun s'en sort, mais que les prix restent corrects?
C'est l'un des plus clairs, hein, les marges de bénéfices.
C'est là où il y a la limite des expérimentations actuelles. C'est-à-dire que là, nous, au bout de 6 mois, on considère que, entre guillemets, on utilise peut-être abusivement le terme beaucoup trop fort, mais c'est pour faire passer l'idée, le terme de conventionnement. On est venu avec un taxi depuis Toulouse qui est un taxi conventionné, pas l'assurance maladie, pour faire du transport médical. Et donc lui, il me dit, bah, moi, c'est pas compliqué, on est conventionné, on a un prix qui est fixé, c'est pas moi qui décide du prix de la course pour un transport de soins, c'est une convention qui est passée avec le système de santé. Du coup, il y a une discussion autour du prix. Et il y a tous les ans, je ne sais pas si c'est tous les ans, en tout cas, il y a un espace où on va renégocier en fonction des nouvelles conditions. Nous, en l'exacteur, on négocie rien du tout. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas avec nos 400 personnes au Biocop en disant « Bon, on va se mettre d'accord sur des produits, etc. » Non, pour l'instant, on labellise, entre guillemets. C'est-à-dire, le produit correspond aux critères, on le labellise au prix du marché, au prix où il est vendu. C'est la limite de nos expérimentations. Demain, si on passe à Montpellier, là, ils vont augmenter sensiblement leur nombre, ils vont plutôt passer à... Ils ont un objectif de 3000 personnes dans 2 ans. Bon, plus on monte, plus ça devient différent. Et plus, à un moment donné, il existe un rapport de force, un espace de discussion en disant, bah voilà, on va créer un prix sur lequel on va se retrouver. Toi, vendeur, moi, conventionnant. Et du coup, on peut mettre autour de la table aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un prix à laquelle on ne pourra pas aller. Et là, c'est vraiment pas l'idée d'aller chercher le moins disant. C'est de trouver quelque chose qui satisfait tout le monde. Oui, nous, on a des gens concrètement qui nous font l'expérience de dire « Moi, j'ai passé ma vie à acheter un kilo d'oignon à 99 centimes. Là, je me retrouve à acheter un kilo d'oignon à 3,50 €. » Là, je vous disais, cette mise en insécurité, c'est-à-dire que c'est des caps à passer qui ne sont pas évidents. Là, la question du prix, oui, nous, on a des gens qui ont les moyens, grâce à la monnaie, d'acheter un produit de qualité et qui ne le font pas. Donc, cette question du prix, elle doit être un peu provisoire, elle doit être dynamique, elle doit être construite. Mais ça va être avec l'augmentation de la taille des caisses. L'idée, c'est d'arriver un jour à dire, on conventionne un prix. Et si le producteur met en avant que j'ai des coûts, comme je disais tout à l'heure, le coût lié aux intempéries, ben nous, on va dire, OK, ben ça, c'est la caisse qui prend ça en charge. Donc ça, on l'enlève du prix. Voilà. Et ça, c'est l'étape d'après.
Une dernière question, peut-être ?
Merci. Écoutez, j'ai un petit peu de mal à comprendre le système.
Merci.
C'est pas trop bête.
Non.
Mais c'est vrai que la sécurité sociale, on comprend très bien qu'on achète les médicaments et qu'on se les fait rembourser. Est-ce que dans votre système, on va chez le commerçant, on achète le produit et on est remboursé? Et comme on doit tous se nourrir tous les jours, ça me paraît très difficile, alors que la sécurité sociale ne rembourse que les médicaments dont on a besoin quand on est malade. Je voudrais savoir un petit peu comment fonctionne, si j'ai une carte, qu'est-ce qui se passe.
En fait, la carte est un moyen de paiement, c'est pas un remboursement dans le second temps. Donc là, je ne l'ai pas encore fait, j'ai juste la carte. Mais comment ? C'est ça, on va dire. On va dire ça. Le montant de l'expérimentation dont je fais partie, pour l'instant, là, c'est sur 3 mois, et c'est 100 MONA qui doit à 100 €, mais qui sont dépensables que dans les endroits qui ont été conventionnés par la caisse.
Par mois.
100 € par mois, voilà. Et donc, comme le disait Mireille tout à l'heure, on peut choisir soit avec cette carte sur laquelle il n'y a pas de puce, mais il y a un flash code, dont les producteurs peuvent être, pour lesquels les producteurs sont équipés pour débiter à partir de ce flash code. Et soit c'est des tickets de 10 MONA qui sont comme une sorte de billet pour payer l'alimentation. Avec cette idée qu'on n'identifie pas des pauvres et des nécessiteux et des riches. Tout le monde paye et on ne sait pas qui a contribué à quoi. Donc c'est moins discriminant.
Et peut-être juste en détail, concrètement, en Gironde, c'est... vous allez faire vos courses dans les lieux conventionnés, vous savez c'est quels lieux qui sont conventionnés parce que vous allez aux réunions et que du coup vous savez les lieux. Et si vous n'allez pas aux réunions, c'est pas grave, vous avez quand même le droit d'aller au magasin. Vous faites vos courses, classiquement. Et au
moment du passage en caisse, vous dites, bah voilà, je veux payer en Mona. Alors Mona, c'est une monnaie alimentaire, c'est un Mona est égal à 1 euro. C'est juste l'idée de dire que ce n'est pas des vrais euros, puisqu'on ne peut pas aller acheter ce qu'on veut. Ce sont des Mona, puisque ça permet simplement d'acheter de la monnaie alimentaire. Non, pardon, ça permet d'acheter des produits conventionnels. Donc vous dites au monsieur, bonjour si vous êtes poli, ou vous dites pas bonjour si vous voulez, je veux payer en Mona. Le commerçant, soit sur son téléphone, soit sur son ordinateur, il accède à une page internet, typiquement, sur laquelle vous avez un compte. Il va vous demander votre nom, il va retrouver vos comptes, vous allez taper votre code à 4 chiffres, et le paiement, il est fait. Voilà. Dans l'arrière-boutique, si vous voulez savoir vraiment comment le commerçant, donc nous, il y a l'association qui est celle qui a typiquement le compte en banque, parce que pour l'instant, c'est ça qui a été fait, c'est-à-dire que c'est une association classique qui a un compte en banque, qui reçoit les cotisations des gens, et qui du coup, lui, l'association, reçoit l'ordre du nombre de mona qui a été dépensé dans un lieu tous les 15 jours, et tous les 15 jours, il fait un virement au commerçant pour lui virer en euros la somme qui a été dépensée dans son magasin. Voilà.
C'est parti. Je voudrais donner le mot de la fin à Janine. Finalement, dans ce système de caisse alimentaire, de nouvelles façons d'avoir accès à une nourriture correcte, etc., qu'est-ce qui, selon vous, est le plus important? Vous avez dit tout à l'heure être entendu, pouvoir décider, donc le côté un peu démocratique. Est-ce que c'est la solidarité? Est-ce que c'est l'accès à des bons produits? Est-ce que c'est des liens? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous là-dedans?
C'est l'accessibilité et le lien.
D'accord. L'accessibilité et le lien. Et est-ce que le fait d'avoir accès à cette caisse, ça change pour vous sur la question de la dignité?
Quelque part, oui. Mais ça dépend aussi pour les gens qui peuvent se trouver en très grande précarité, comment ils sont accompagnés et de quelle façon.
Donc on cherche toujours des accompagnants et on s'accompagne les uns les autres. Merci infiniment. Merci à vous.
Le rapport du Secours catholique qui est au fond, il est aussi accessible sur Internet gratuitement, en format PDF. Voilà.